Time Out.
Ja, en eigenlijk gaan ze er altijd zijn, muzikanten zoals Jeff Buckley of Jimi Hendrix of Beethoven of Toots Thielemans. Michel Hadzi Georgiou, de Brusselse bassist van Aka Moon, ja, die denkt er ook zo over.
Ben oui, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, pour moi c'est... Ces musiciens, et toutes y compris, bien sûr, ce sont des légendes, et bien sûr, ils sont éternels, au même titre qu'un Beethoven, un Mozart, un Jimi Hendrix. Et dans le domaine du rock, il y en aura beaucoup. J'espère qu'ils partiront dans longtemps. Mais de toute façon, bon, voilà, je veux dire, la seule justice ici sur Terre, je crois que c'est la mort. Et la mort fait partie de la vie. Tout c'est un musicien qui a vécu jusqu'à 94 ans. C'est extraordinaire. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'il a vécu musicalement et humainement bien jusqu'à ses 94 ans. C'est quelqu'un qui était hyper, si je peux, réglo quoi. Enfin voilà, réglo, honnête, juste, ami, et puis bon voilà, immense musicien.
Souriant, toujours souriant.
Toujours souriant, et c'était pas semblant, hein, il était vraiment comme ça, hein. Oui, bien sûr, il avait des fois des petits coups de gueule, quoi, comme tout le monde. Mais en général, 99% du temps, il était toujours à offrir quelque chose. Uh-huh. Voilà, c'est quelqu'un qui donnait énormément, uh-huh. énormément, et qui partageait ce qu'il avait. Il ne se prenait jamais pour le plus grand ou... Bien sûr, il avait l'oreille, donc il pouvait entendre que lui, quelque part, il savait jouer. Mais jamais il le disait. Jamais il le disait avec des mots, en tout cas. Il le disait avec sa musique, hein, tout simplement. Il pouvait jouer la mélodie la plus simple du monde. Et il la jouait d'une manière qu'elle devenait la plus belle. Voilà.
Ja, de meest eenvoudige melodie zodanig spelen dat ze het mooiste liedje op aarde wordt. Michel Hadzi Georgiou die weet wat het verschil is tussen gewone en goede muzikanten. En Toots stond natuurlijk helemaal bovenaan de ladder. Toots Thielemans. Michel Hadzi Georgiou van Aka Moon had twee grote helden in de muziek. Eén ervan was Toots Thielemans en de andere was de Amerikaanse elektrische bassist Jaco Pastorius. In zijn tijd, eind jaren 70, de bassist der bassisten. En de beide kenden elkaar, Jaco Pastorius en Toots Thielemans.
Oui. En fait, c'est le papa de Jaco qui avait dit à Jaco un jour, si tu veux un jour jouer avec un vrai musicien, appelle Toots Thielemans. Parce que le papa de Jaco, Jack Pastorius, était très ami avec Toots. Et donc Jaco, il a écouté son père, il a appelé Toots et ils ont d'abord enregistré ensemble. Et il est même venu en Belgique, Jaco, pour enregistrer avec Toots. Et il avait une super grande estime de Toots, vraiment. Et moi, la première fois que j'ai rencontré Jaco, c'était en France en 1983, dans la rue. Et évidemment, je l'ai abordé en disant, écoute, Mr. Jaco, vous êtes mon idole, je suis bassiste aussi. Et il s'est retourné en me faisant le doigt d'honneur. Ah, you best player. Yo, fuck you. Et puis, do you know Toots Thielemans? Yeah, my daddy. I play with Toots in Belgium, you know. Okay, so you're my friend. Et wow, quelle carte de visite quand même, Toots. Il m'a sauvé quand même quelques fois.
Là, vous aviez quel âge en 83
En 83, j'avais 21 ans. Donc, c'est la première fois que je l'ai rencontré, c'était là. Et puis, je suis allé le trouver à la Martinique. Et puis, je suis allé à New York. Et donc, voilà, ce Jaco, je l'ai suivi quand même quelques fois. Et puis, il est venu en Europe, on a joué. Il m'a invité pour jouer avec lui à l'ancienne Belgique. C'était pas facile parce qu'il était un peu en crise. Et d'ailleurs, il y a une vidéo de la VRT, hein, de ce concert-là. Donc, papy était là aussi, papy Toots. Et puis, je l'ai suivi en Hollande, mais ça s'est très mal, hélas, très mal passé. Et le manager a décidé d'arrêter la tournée.
Ja, in de straten in Frankrijk sprak hij zijn held aan, Jaco Pastorius. En hij zei, ja, ik ben ook bassist. Ja, en eigenlijk kreeg hij gewoon een middelvinger tot hij de naam Toots Thielemans liet vallen. En dan werden ze gewoon meteen vrienden. Jaco Pastorius uit New York en Michel Hatzigiorgiou uit Brussel. Vooraan in de 20 was hij. En hij volgde zijn Amerikaanse held hier in de straten in Europa. En hij begon toen ook te spelen in de band van Toots Thielemans. Ja, wat was het probleem eigenlijk met Pastorius? Zat hij aan de drugs? Was hij verslaafd?
Non, Jaco n'était pas un drogué, hein. Il était maniaco-dépressif, hélas. Et quand il utilisait, ça lui arrivait de boire et de prendre un peu de la drogue, mais c'est quand il souffrait et il voulait vraiment en finir. Et d'ailleurs, il a choisi son bourreau, hein. Il a vraiment choisi la personne qui l'a tué, quoi. Et, ben bon, j'aime pas trop en parler de ça, parce que ça, c'est le côté noir de la vie. Jaco, c'était pas vraiment pas de sa faute. C'était un problème dans la tête chimique, hein. Maniaco-dépression, ça s'appelle. Et à l'époque, les médicaments qui existaient n'étaient pas très au point. Donc, il n'aimait pas trop prendre ça. Mais quelquefois, il se livrait à l'hôpital pour quand même se reposer un peu. Mais malheureusement, voilà, c'est tragique. C'est le côté tragique que j'aime pas trop en parler, mais moi, je préfère penser à Jaco quand il est souriant et quand il joue comme un dieu. Ouais.
Weather Report met de geweldige Jaco Pastorius aan de bas. Ja, manisch depressief was hij. En in die jaren was de medische behandeling ook niet gedat. Il a cherché son bourreau, zo vertelde Azzi Giorgio. Hij geraakte snel boven zijn kookpunt en hij geraakte slaags met mensen. En zo is hij aan zijn vroegtijdige einde gekomen. Vroegtijdig einde in een vechtpartij met iemand waar hij problemen mee had aan de ingang van een nachtclub. Ja, je kent wel het verhaal van die nachtclub in september 1987. Ja, spelen, dat deden zij als de beste. Die band met Azzi Giorgio en met Bruno Castellucci en met Michel Herr. Ze speelden als beesten en als de besten, maar repeteren, dat was er eigenlijk nauwelijks bij, hè?
Oui, voilà, parce qu'il avait quand même son répertoire, il jouait beaucoup des standards, et puis il jouait beaucoup des musiques de films. Voilà, donc c'était... Et puis de temps en temps, on jouait un morceau de Michel Herr ou Ivan Lins, ou quelque chose. Mais jamais, jamais, on a, au grand jamais, on a répété. Moi, quelque part, il y avait une farde avec des partitions. Quand j'ai rencontré tout ce... j'avais déjà expliqué ça dans une autre interview. Je jouais dans un projet de Steve Huben, Steve Huben and Strings. Et quand on a joué, c'était ici, je crois, au Palais des Congrès, Steve avait invité toutes. Et pendant les répétitions, toutes se retournaient toujours et me regardaient. Puis pendant le concert, encore, ils se retournaient. Et le lendemain, il m'a appelé, lui, à la maison. Mais j'avais 21 ans, vous voyez, j'étais super jeune. Et il m'a proposé de faire partie de son quartet. J'ai évidemment accepté. Oui, mais je me demandais ce qui m'arrivait, quoi. Et il m'a appelé peut-être le dimanche ou le lundi. Et le samedi d'après, on jouait déjà ensemble. Donc je suis arrivé et Michel Herr m'a donné une petite farde avec des partitions dedans. La moitié des standards, je les connaissais par cœur. Et puis les autres musiques, j'avais la partition devant moi. Et moi, depuis toujours, j'ai l'habitude d'apprendre toujours tout par cœur. Donc, très vite, je connaissais tout ça. Mais bon, c'est arrivé quelquefois qui, sans rien dire, on est sur scène et puis il commence un morceau et... Ah, si tu le connais, tant mieux. Si tu le connais pas, démerde-toi. Donc, un jour, je me souviens, il a commencé Giant Steps et... Oh, je le connaissais pas. Ça a été la grosse catastrophe. Avec le stress, j'ai quand même... trouver la grille d'accord avant que le morceau termine. Il s'est retourné, il m'a pas engueulé. La fois d'après, il a refait Giant Steps, mais là, j'avais travaillé. Et après, non seulement, il a fait un sourire, puis il m'a fait solo. Et donc, c'est encore un des seuls morceaux que je travaille encore maintenant. Quand je prends ma basse en général, je commence par faire quelques grilles de Giant Steps en pensant à tout ça. très vite, on a tourné partout en Europe et en Scandinavie, beaucoup. On est allé au Japon aussi. Puis il avait aussi son groupe américain. Donc, chaque fois qu'il avait des concerts en Amérique, il jouait avec son groupe américain. Sans doute pour des questions de green card et des choses comme ça. Et puis non, puis il avait le droit de jouer, évidemment, avec qui il veut. Je veux dire, c'est le maître. Si un jour il a envie de jouer avec une contrebasse, il prend une contrebasse, je veux dire. J'ai une contrebasse dans le coin, là. La moitié, c'est papy qui me l'a offert.
Comme c'est une basse tellement chère.
C'était pas tellement cher, mais il a fait un geste. Parce que j'avais compris qu'il aimait beaucoup aussi la contrebasse, bien sûr, vous voyez. Mais bon, comme c'était quelqu'un de super honnête, super réglo, il m'avait invité, moi, à jouer avec lui.
Et vous, c'était toujours en électrique?
En électrique, bien sûr. Et donc, je lui avais dit que j'aurais aimé apprendre la contrebasse. Puis il m'avait dit, ouais, mais t'es pas obligé, tu sais, ne fais pas ça pour moi. Je dis, non, papy, mais parce que j'aime beaucoup cet instrument-là, et puis le jour où je pourrais un peu mieux maîtriser cet instrument, ben, je le prendrai, je pourrais faire les deux. Ok, alors je vais t'aider. Et il m'a fait une petite enveloppe. Waouh, c'est vraiment incroyable, quoi. Cette contrebasse, je ne vais jamais la revendre. Et c'est un cadeau de papy, quoi.
Ja, papy, hij noemt Toet Stielemans stevast papy. En Jaco Pastorius en Toets, die hadden ook een soort vader-zoon relatie, want Jaco noemde Toets papa. Hoe zat dat dan precies?
Parce qu'avec Jaco, quand il m'avait dit, ouais, papa, j'ai dit, no, it's my papi, you know, my papa. Il me fait, no, no, it's my papi, you know. Et puis je dis, ok, si c'est ton papa, alors c'est mon papi. Et puis voilà, j'ai appelé tout depuis le début papi, quoi.
Opa, en néerlandais, on dit opa.
Opa, hein? Ouais,
je vous c'était toujours le français ou c'était oui. En l'anglais, c'était un mélange, ouais, sans
toujours,
doute.
Avec tout, c'était toujours en français, quelquefois en italien, parce que il aimait bien parler italien. Il parlait plusieurs langues, hein, suédois, un peu de finlandais et l'italien. Donc de temps en temps, j'ai appris l'italien aussi. Donc de temps en temps, on parlait l'italien avec Bruno quand on était en Italie. D'ailleurs, on parlait en italien des fois. Mais sinon, c'était en français, bien sûr.
Ja, Frans meestal, maar eigenlijk ging het er een beetje in alle talen aan toe als je zo internationaal speelt en internationaal reist natuurlijk. Ja, en in die tijd begon Atsi Giorgio ook te spelen met die twee andere Brusselaars, met Stefan Galland en met Fabrizio Cazzol als Aka Moon. En dat begon natuurlijk meer en meer van zijn tijd op te eisen en dat kwam in conflict met zijn drukke schema bij Toets.
À un moment donné, quand Aka Moon commençait à jouer de plus en plus, c'est arrivé que j'avais deux concerts le même jour, Toets et Aka Moon. Et donc, j'avais déjà essayé de dire à Toets, papy, j'ai un concert avec Aka Moon. Non, qui me faisait, tu joues avec moi, tu es bassiste du groupe et tu dois jouer avec moi. Une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois, dix fois. Et puis un jour, je lui ai dit, papy, tu sais, j'ai un pote. Il joue bien de la basse électrique, mais il joue bien aussi de la contrebasse, tu sais. Et là, il a compris. Et il m'a fait un grand sourire. Et je lui ai fait, c'est Nick Tace, il s'appelle Nick Tace. Et il a commencé à apprendre Nick Tace. Et il a compris que mon chemin devait aller vers Aka Moon. Mm-hmm. Et il a toujours... Et il m'a compris, et il n'y avait aucun problème. Et puis après, il a pris d'autres contrebassistes et... Et c'est arrivé encore une fois ou deux qu'on se recroise et il m'en a toujours gardé. On est toujours restés amis parce que c'était honnête. Voilà. Et puis c'était un choix difficile, mais quelque part j'avais pas trop le choix non plus. Et donc je l'ai dit simplement à papy, quoi. J'ai dit voilà, j'ai un pote qui joue très bien aussi de la basse et il a compris, quoi. Il a compris et il y avait aucun problème finalement.
Et vous avez encore beaucoup joué ensemble, hein, à Aka Moon et tout ça.
Bien sûr, et puis on a invité toutes, et puis quelquefois ils venaient même nous écouter, et on buvait un petit coup avec lui, et puis de temps en temps on allait le reconduire aussi avec Stéphane. Et non, c'était quelqu'un d'immensément grand, quoi. Humainement parlant, c'était... mais quel bonhomme, quoi. Quel bonhomme. Quel bonhomme. Mais on l'entend dans son son. Ouais, on l'entend. Ouais. Hier, je zappais un peu avec des trucs de Manchester et tout. Quelle horreur. Et puis je zappe et je tombe sur le générique final d'un feuilleton, je sais pas quoi, et j'ai reconnu tout de suite l'harmonica de Toots. Tout de suite, mais tout de suite, quoi. J'ai la chair de poule, quoi. Waouh, des frissons. C'est incroyable, mais c'est incroyable.
C'était quoi comme série ou quoi comme film ?
C'était la musique de... À un moment donné, sur FR3, il y avait le générique avec une image de Folon. C'était une musique très très belle que Toots avait réenregistrée avec un arrangeur pour ce feuilleton-là. Comme c'était la fin, je ne sais plus le titre du truc. Donc je ne sais pas, mais c'était super beau. Et tout de suite, tu entends le son, tu peux dire, il n'y en a qu'un qui joue comme ça sur Terre, c'est Toots. C'est tellement pur, c'est du cristal. Vous voyez, avec ce petit vibrato à la fin qui... Oh, moi je craque quoi, il n'y a rien à faire.
Manuel, schitterende muziek van Michel Colombier. Het is muziek waar Antenne 2 vele jaren ook mee eindigde. Waarmee de uitzendingen van Antenne 2 op televisie eindigden. Dus het is heel vaak op de Franse televisie geweest. Michel Colombier, muziek met uiteraard Toots Tienemans erbij. En de verhalen van Michel Azzi Giorgio. Volgende week praten we met Kenny Werner, een van de vaste pianisten in de laatste actieve jaren van Toots Tienemans.